Je voudrais habiter ma vie dans la maison de l'Éternel. Alléluia, 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 alléluia.
Dieu. C'est la dernière prédication sur ce thème que je vais faire. En fait, ce sont des prédications, ce sont des notes et, dont je vais me servir pour enseigner là-bas au Togo. Je dois faire un séminaire pour, je ne sais pas exactement combien de pasteurs, mais ils m'ont demandé des enseignements parce qu'ils ont été bouleversés de voir tant de miracles l'année passée. Ils ont dit, on voudrait savoir, est-ce que vous avez des enseignements là-dessus? On voudrait savoir. Alors, c'est pourquoi j'apporte ces enseignements depuis quelques semaines ici. En fait, je rôde un peu ces prédications avec vous et aussi je les mets sur Internet pour que ce ne soit pas seulement ces pasteurs du Togo qui les entendent, ni vous qui seulement qui regardez la télévision qui les entendiez, mais aussi que tout le monde, voilà, qu'on puisse en profiter. Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, il parle de Dieu, les yeux de Dieu, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Amen. C'est de là que vient la petite phrase que les païens me répétaient, ah, que tes pensées sont impénétrables, les pensées de Dieu sont impénétrables, pom, 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 pom. Si on veut chercher, on trouve. Hein, Dieu nous ouvre son cœur et nous révèle les choses parce que nous sommes faits à son image et plus nous nous approchons de son image par la discipline, par l'obéissance, eh bien, son esprit nous ouvre notre esprit pour que nous comprenions. Vous croyez ça? Maintenant, nous savons que Jésus vit en nous. Et Jésus vit en nous, mais il ne dort pas. Qu'est-ce que ça signifie, Jésus vit en nous? Ça signifie que la puissance capable de mouvoir le monde, elle est en vous. Ça signifie quoi? Dans votre esprit, en unité avec votre esprit, il est là et votre esprit est uni à l'intelligence infinie et à la sagesse sans borne de Dieu. Est-ce que ça change quelque chose à votre quotidien? Eh bien, sinon, c'est bien dommage. C'est bien dommage si ça ne change pas quelque chose à votre quotidien, si vous êtes simplement rivé sur les choses matérielles, les choses qu'on voit. James Dean disait, en reprenant Le Petit Prince, les choses qui ont vraiment de la valeur, les yeux ne les voient pas. C'est l'esprit. Mais quelle relation vous avez avec Jésus? Beaucoup de gens ont des relations épidermiques avec Jésus-Christ. Ils sentent sa présence. Pour moi, c'est très rare. Sentir la présence de Dieu, j'en ai pas besoin. Parce que sentir la présence de Dieu en ayant un frisson, en ayant, je sais pas, c'est encore charnel tout ça. On ne sent pas la présence de Dieu. On est en communion avec lui, on est en unité avec lui. On le sait. Quand on le sait, ça devient une réalité dans le quotidien. Il enlève les pierres de notre chemin, les choses deviennent simples, on les comprend, on sait comment agissent les lois, il nous enseigne, il parle à nos cœurs. Mais toujours sentir, rechercher à sentir. Vous savez, je crois, si Jésus ne revient pas, d'ici 200 ans, quand les gens entendront les prédications de tous ces gens qui parlent de sentir la présence de Dieu et qui pleurnichent avec des émotions pendant les réunions, ils paraîtront ridicules. On dira, mais c'est quoi ce cirque qu'ils faisaient là-bas au 21e siècle? Il y a quelque chose qu'ils n'avaient pas compris. Eh oui. Notre communion, c'est d'esprit à esprit. Eh oui, mes frères et sœurs, c'est comme ça. En lisant la Bible, votre âme, c'est-à-dire votre être, l'esprit qui est en vous, c'est cette partie de Dieu, c'est la vie. C'est la vie. C'est ce qui donne vie à votre corps. Et c'est ce qui fait que vous êtes un être vivant. Votre âme, qui est une création, due au fait que votre corps a eu la vie. Alors ça y est, maintenant vous êtes vivant. Et cet être vivant, c'est l'âme. C'est ce que la Bible nous dit. L'âme, ça veut dire être vivant. Votre âme, ben, elle a tout à apprendre. Elle apprend les choses. Et quand elle lit la Bible, votre âme, quand vous lisez votre Bible avec votre intelligence, vous servant de votre mémoire pour faire des regroupements avec tel et tel texte, tel et tel autre texte, etc., avec vos expériences et tout ce que vous avez vécu, ce que, d'autres livres que vous avez lus, votre âme apprend des choses parfaites. Si elle accepte et si elle décide de choisir ce que Jésus propose dans son message, alors votre âme, elle ouvre la porte à l'Esprit de Dieu. Je vous ai dit l'autre jour que nous sommes dans la même position, en quelque sorte, qu'Adam et Ève. Nous avons un jardin à garder. Un jour, je me trouvais dans une conférence. C'était une conférence avec Pierre Gilbert. On le connaissait, ce n'était pas encore notre ami. C'était dans la région parisienne, on était avec Philippe. Et puis, il y avait ensuite des ateliers. Moi, je faisais partie d'un petit atelier d'une douzaine de personnes, je ne sais plus. Et puis, à un moment donné, j'ai parlé du fait que Adam et Ève devaient garder le jardin. Ouh là là, c'était un tollé. Ils ont dit, mais ce n'est pas écrit. Je dis, ah bon, vous croyez? Moi, je suis sûr que c'est écrit, Adam et Ève devaient garder le jardin. Non, c'est écrit qu'ils devaient le cultiver. Je dis, oui, ils devaient le cultiver, mais ils devaient le garder aussi. Ça veut bien dire qu'il y avait un ennemi. Ah bon? Et alors, je dis, écoutez, vous avez vos Bibles, allez-y. Et ils ont été stupéfaits de voir que Adam et Ève devaient garder, ils avaient un boulot. Ben nous aussi, on a un boulot, on doit garder notre jardin intérieur, c'est-à-dire notre vie, l'esprit qui est en nous, on doit le garder. Et c'est notre âme qui garde. Votre âme, si elle s'imprègne de la parole de Dieu, si elle accepte de choisir, décide de choisir que ce que Jésus propose comme enseignement, c'est la vérité, votre âme, elle permet à votre esprit d'être en communion avec Dieu parce qu'elle, en tant que gardien, elle ouvre la porte aux choses de l'esprit. Il va y avoir unité. Quand on dit communion, ça veut dire unité entre l'esprit de Dieu et votre esprit. L'esprit de Dieu va entrer en unité avec votre esprit. La vie de Dieu va rentrer en unité avec votre vie. Les gens sont perdus parce qu'ils ne sont pas en unité avec la vie, avec Dieu. Ils existent, mais ils ne vivent pas. Beaucoup de chrétiens ont simplement levé leurs mains, ils ont été trempés dans l'eau. Et puis après, ils pensent qu'ils vivent. Mais non, ils continuent à exister, mais c'est tout. Il n'y a rien de spirituel dans leur affaire. Tout ce que votre âme, votre intelligence humaine, votre mémoire, vos émotions laissent entrer dans votre esprit, dans votre vie, ça s'enregistre dans votre vie, ça s'enregistre dans votre esprit. Et votre esprit va, je vais dire un mot terrible, aveuglément manifester cela. C'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas que vous laissiez rentrer n'importe quoi dans votre esprit. Ève, elle a laissé rentrer la pensée que le serpent lui suggérait. Elle devait garder le jardin, elle ne l'a pas fait. Ensuite, Adam, gros balourd, la même chose. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Il faut imprimer dans votre esprit des idées justes, les idées de Dieu, pas les idées de l'ennemi, pas les idées des gens, pas les idées des philosophes, pas les philosophes. Il y a des bonnes choses dans les philosophies, il y a des bonnes choses dans ce que disent les gens, mais il faut que vous fassiez le tri. Il faut que vous imprimiez dans votre pensée des pensées constructives. Vous savez, la raison pour laquelle il y a tant de discorde dans ce monde, tant de misère, c'est que les gens ne comprennent pas l'interaction de leur esprit et de leur âme. Ils ne comprennent pas. D'abord, ils ne savent même pas la différence entre l'âme et l'esprit. Même ceux qui écrivent la Bible là, en français, ils mettent des fois majuscules, des fois minuscules, ils ne savent plus, ils ne savent pas. Ils mélangent tout. Quand votre âme, votre esprit travaille en plein accord, en unité, sur les ordonnances du Créateur, quand il travaille dans la concorde, dans la paix, dans la synchronisation, alors vous obtenez la santé physique, la santé mentale, en un mot, la paix que le monde ne donne pas. Vous n'allez pas recevoir la paix que le monde ne donne pas simplement parce que vous allez aller sur vos genoux et demander la paix que le monde ne donne pas. C'est faux. Ça s'appelle de la magie. Vous croyez que Jésus va arriver parce que vous lui demandez avec une baguette magique, il va vous donner la paix que le monde ne donne pas. Non. La paix, c'est dans la pensée que ça commence. Comment vous pensez? Est-ce que vous êtes anxieux? Est-ce que vous êtes soucieux? Est-ce que vous êtes un malade de la perfection? Est-ce que vous êtes... Tout ça, ça donne du désordre, ça ne donne pas la paix. Il y avait dans la mythologie grecque un dieu qui s'appelle, personnage s'appelle Hermès, c'est un dieu de la mythologie grecque, c'est le dieu des voyageurs, des marchands et des voleurs. Hein. Je ne veux pas faire trop de dessins. Mais c'est aussi, d'après ces légendes, le messager des dieux, le dieu des messagers des dieux, le dieu des conducteurs des âmes. Et il a écrit des livres de magie, des choses terribles, n'est-ce pas? Et quand sa tombe a été découverte, les gens croyaient qu'ils allaient trouver là-dedans le secret des âges et qu'ils allaient pouvoir trouver des choses extraordinaires. Ils ont trouvé juste une chose, le secret, c'est il en est en dedans comme il en est en dehors. Et ce qui est en haut, c'est comme ce qui est en bas. Alors les francs-maçons se sont saisis de cette chose-là et puis ils font toute une sorte de recherche là-dessus. Et tout. Mais bon, ça c'est les francs-maçons. Qu'est-ce que ça vous dit à vous par rapport au message de Jésus? En d'autres termes, ça veut dire que ce qui est esprit et ce qui est écrit dans votre esprit s'exprime, s'écrit aussi dans votre espace-temps, dans votre vie, dans votre vécu, dans la réalité, dans la matière, dans la création. Parce que votre esprit, c'est votre partie de ciel. C'est le ciel, c'est ce qui est en haut. En fait, le ciel est en vous quand Christ est en vous. Comprenez-vous ça? Quand l'enseignement de Jésus est en vous, c'est le ciel qui est en vous. Quand on dit Jésus en moi, mais Jésus sans son enseignement, ce n'est pas Jésus. Si vous croyez que vous avez Jésus dans votre vie, mais que vous ne connaissez pas son enseignement, vous n'avez pas Jésus dans votre vie. Vous avez une religion, vous avez des idées, mais ce n'est pas Jésus. Enlevez l'enseignement de Jésus, vous reste quoi? Jésus a un enseignement et vous devez recevoir cet enseignement, l'enseignement de Jésus, je dis bien pas d'une religion, de Jésus. Quand Jésus est en vous, son enseignement est en vous. Quand son enseignement est en vous, il est en vous. Si vous demeurez dans ma parole, n'est-ce pas écrit? Cela, ça s'exprime sur la terre, dans le réel. Quand Jésus est en vous, ça s'exprime dans le réel, dans les manifestations, dans ce qui vous arrive. Jésus dit, celui avec qui je suis, en qui je suis, qui a mon enseignement, qui garde ma parole, qui garde mes commandements, qui marche selon ma volonté, celui-là, il ne sera jamais la queue, il sera toujours la tête, il sera en haut, il ne sera pas en bas. Je le guérirai, je le bénirai, je le rendrai fécond, presque prospère. C'est la vérité. Ou est-ce que je suis en train de faire une espèce d'évangile New Age là? Non, c'est la vérité. C'est simple à comprendre. Un enfant peut comprendre, nos enfants comprennent. Mais le contraire est vrai aussi. Si dans votre ciel, c'est-à-dire dans votre esprit, dans votre vie, dans ce qu'il y a de plus sacré en vous, ce sont des esprits célestes mauvais qui règnent. Vous savez que la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des gens, mais contre des esprits, des puissances, des autorités, des dominations, des princes qui sont dans les lieux célestes. Il y a donc des esprits mauvais, célestes, qui peuvent venir habiter dans votre ciel à vous, c'est-à-dire dans votre vie, dans votre esprit. Eh bien, quand dans votre ciel, dans votre esprit, dans ce qu'il y a de plus précieux en vous, eh bien, ce sont des mauvais esprits qui règnent, eh bien, sur votre terre, dans la réalité, c'est du mal qui va vous arriver. Les plus vieux dans la communauté se rappellent quand je disais aux enfants, quand tu es gentil, tu as la joie dans le cœur. Quand tu fais des bêtises, tu as la tristesse dans le cœur. Qui se souvient que je disais ça? Hein, même ceux qui étaient des tout petits, qui sont maintenant des grands. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? C'était vrai quand vous étiez petit, mais c'est toujours vrai aujourd'hui. C'est une base toute simple de la vie, comme Dieu l'a créée. C'est la même chose au ciel que sur la terre. C'est-à-dire, si dans votre ciel, c'est d'une certaine manière, dans la terre, dans le réel, ça sera de la même manière. Si c'est le désordre dans vos pensées, ce sera le désordre dans votre vie. Si c'est la désobéissance à l'intérieur de vous, tout va vous désobéir autour de vous. C'est-à-dire, tout va aller de travers, tout va... Ça, vous voudrez un truc, c'est un autre qui va vous arriver. Ça va être comme ça tout le temps, parce que vous projetez à l'extérieur de vous, dans vos circonstances, dans votre famille, dans vos finances, dans tout. Vous projetez ce que vous prenez à l'intérieur de vous et à ce à quoi vous pensez le plus. Ça... C'est la grande loi de la vie. Au début de cette série, je disais, je vais vous enseigner des choses que Jésus enseignait à ceux qui étaient des croyants, parce que ceux qui étaient des croyants, ils voulaient en faire des faiseurs de miracles. Vous vous rappelez que je vous disais ça? Alors Jésus en parle clairement. Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. La Bible en parle. Quand je dis Jésus en parle, la Bible en parle. Il y a partout cet équilibre dans toute la création. Il y a l'équilibre dans la création. Il faut qu'il y ait un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Il faut qu'il y ait un équilibre entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre. Il faut qu'il y ait un équilibre. Et vous, les chrétiens, vous êtes ici-bas pour permettre justement à cette loi de la vie de passer à travers vous et d'une façon harmonieuse, de passer harmonieusement au travers de vous jusque sur la terre pour produire dans la matière, dans les circonstances, dans les éléments, dans tout, pour produire dans tout l'harmonie, la paix, le bon, le magnifique. Jésus faisait ça. Ce qui était en lui, il le manifestait à l'extérieur pour calmer une tempête, pour guérir un malade, pour tout, pour sa propre protection. Les gens voulaient le jeter en bas du ravin. C'est écrit que la foule était enragée. Vous savez, les foules là-bas, quand elles sont enragées, vous avez vu comment elles sont, les foules enragées là-bas, hein, les Méditerranéens? Ben Jésus, tout d'un coup, il a passé entre eux comme ça. Il a maîtrisé l'événement, vous comprenez? Et vous, qu'est-ce que vous maîtrisez? Si vous n'êtes pas maître de vous-même, vous n'êtes pas maître de ce qui est à l'extérieur. Et ce qui vous arrive, vous le subissez, c'est tout. Et c'est bien dommage, puisque vous avez la possibilité d'être maître. Jésus a dit, tout disciple accompli sera maître, comme moi. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Il l'a dit. Ce que vous imprimez en vous s'exprime à l'extérieur de vous, à l'égalité. Parce qu'il y a un équilibre, il faut qu'il y ait un équilibre. Alors vous voyez, toutes vos frustrations proviennent justement du fait que vous avez des désirs qui sont insatisfaits. Si vous pensez négativement, si vous pensez destructivement, je ne sais pas si ça se dit ça, de façon erronée, si vous pensez que le bien est mal et que le mal est bien, ces pensées-là vont engendrer des émotions négatives, destructives, ça va engendrer des choses, ça va s'extérioriser à l'extérieur de vous, ça va s'extérioriser, vous allez voir ces choses se réaliser, toute la désharmonie, tous les échecs, toutes les frustrations, tous les trucs qui vous blessent, c'est parce que vous l'avez projeté. Vos émotions vont s'exprimer par des ulcères, vos émotions vont s'exprimer par des troubles cardiaques, par de l'anxiété, ça va finir par de la dépression, parce que vous accumulez. À un moment donné, il faut que ça sorte. Ça supporte pas autant de choses négatives, alors ça se manifeste comme une sonnette d'alarme, il y a un... C'est-à-dire, voilà, ça ne marche plus, ça ne peut plus aller, stop, il faut arrêter. Hein, quand il vous arrive un ulcère ou quelque chose comme ça, dites-vous, mais attends, c'est une sonnette d'alarme, il faut que je fasse un peu le point sur moi. Bon, vous allez soigner l'ulcère, vous allez faire ce qu'il faut, mais soignez aussi votre être intérieur, c'est surtout là, c'est la racine. La racine du mal, elle est à l'intérieur, dans votre façon de penser, d'entretenir du ressentiment, de la jalousie, des mauvaises idées, des idées que vous êtes un raté, des idées que je ne sais pas quoi, moi, des mauvaises idées. Mon frère, ma sœur, quel sentiment est-ce que tu entretiens à ton sujet? Quel sentiment tu entretiens à ton sujet en ce moment? Chaque partie de ton être exprime cette idée que tu te fais de toi-même. Chaque partie de ton être, ta vitalité, ton corps, l'état de tes finances, ta relation avec tes amis, ta position sociale, tout cela représente un reflet, la réflexion parfaite de l'idée que tu te fais de toi-même. Vous ne me croyez pas? Ça n'a aucune espèce d'importance. Paillon, qui était mon professeur à l'école biblique, au Chou, en 1971, disait simplement, si vous êtes jaloux de moi, faites comme moi, c'est tout. Mais autrement, ben, continuez, ne me croyez pas. Ça, mais qu'est-ce que vous croyez que ça va changer à ma vie, que vous me croyez ou que vous ne me croyez pas? Nous nous nuisons à nous-mêmes. Et alors on fait comme Ève, on fait comme Adam, on fait comme le serpent. Adam, il dit, c'est pas moi, c'est elle. Elle dit, c'est pas moi, c'est le serpent. C'est pas ma faute si je suis comme ça. C'est mon mari, c'est mes enfants, c'est ma maman, c'est mon papa, c'est mes filles. Les gens sont méchants. Alors maintenant, j'en peux plus. C'est la faute des autres. La Bible dit que non. Les petits cadres vont vous dire que c'est la faute de vos parents. Ah oh, oui, c'est la faute de vos parents. Voilà. Comme ça, ça entretient même en plus une espèce de... Hein, de ah, si mes parents avaient agi correctement avec moi, j'en serais pas là où j'en suis. Alors on leur en veut en plus. Bien sûr, il se peut que vos parents ne vous ont pas donné l'éducation, n'est-ce pas, qu'il faut exactement. Mais quels parents? On apprend à devenir parent. Hein. C'est vrai que des fois on se gourre. Mais vous avez la possibilité de tenir les rênes de votre vie. Arrêtez de vous plaindre et dire que c'est la faute des autres. Nous nous nuisons à nous-mêmes en entretenant des pensées négatives. On les entretient, on les chérit, on les dorlote, on leur met une bouillotte pour qu'elles soient bien au chaud. Vous vous faites du mal en entretenant des craintes. Vous vous faites du mal en entretenant de la jalousie ou des sentiments de vengeance. Tout ça, c'est des poisons, c'est du poison que vous faites pénétrer dans votre esprit. Vous allez sur la fête foraine où il y a le diable avec son stand, et puis vous allez choisir quel poison vous allez prendre. Rappelez, Raphaël, il disait, le plus grand poison du diable, c'est le découragement. L'arme du diable la plus forte. Mais lui, il ne fait que de vous la proposer. Vous, après, vous en faites ce que vous voulez, hein. Vous en faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Ah ben tiens, il y a du ressentiment, j'en vais, il est combien? Ah oui, d'accord, ben je vais en prendre 200 grammes, merci. Ah, du ressentiment maintenant. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Vous pouvez le déposer à la croix. Non, Seigneur Jésus, tu t'occupes de cette affaire, moi c'est au-dessus de mes forces. Moi tu t'occupes de ça, moi je suis en harmonie dans la paix et tout, voilà. J'ai pas le temps, je veux pas prendre le temps de détester mes ennemis, j'ai déjà à peine assez de temps pour aimer ceux qui m'aiment. Alors, si vous mettez du poison en vous, il va produire encore plus. Si vous en avez acheté pour 200 grammes, il va en produire 2 kilos. Hein? De ressentiment, de jalousie, de crainte, d'échec, etc. Le remède, parce qu'il y a un remède, heureusement il y a un remède, il y a un contre-poison. Le remède, ben, nourrissez votre esprit avec des pensées vivifiantes. Jésus est un esprit vivifiant. Cela est écrit. Jésus est un esprit vivifiant. Son enseignement montre le chemin de la vie. C'est son enseignement. C'est par son enseignement que ça passe. Ça n'est pas par coup de baguette magique. C'est pas parce que vous allez prier que ça va arriver. C'est en écoutant son enseignement et en le mettant en pratique. C'est pas en priant. Arrêtez de prier! Vivez! Bon, priez aussi quand même. Mais c'est pas la panacée, c'est pas le remède. Ce que Jésus veut, c'est que vous fassiez ce qu'il dit. Les prières, moi aussi, je prie beaucoup, je parle en langue énormément, mais et alors? Mais c'est une des facettes, c'est tout. La principale, c'est l'enseignement. En nourrissant mon esprit avec des pensées élevées, en nourrissant mon esprit avec des pensées pures, avec des pensées nobles, avec des pensées de réussite, avec des pensées que Dieu peut dire amen, ça c'est bien. Quand vous mettez ça dans votre esprit, quand votre âme accepte de mettre ça dans votre esprit, eh bien vous effacez tous les prototypes négatifs que vous y aviez logés autrefois. C'est le seul moyen. On remplace quelque chose par autre chose. C'est tout. On me dit, il est où le miracle? Mais il est là le miracle. C'est comme le miracle d'une naissance. Vous pouvez prier tout ce que vous voulez pour que le miracle de la naissance arrive, il faut faire ce qu'il faut. Hein. Je ne fais pas de dessin, hein. Vous avez compris? Il faut faire votre miracle. Alors, il y a des miracles, miracles, où Dieu agit d'une façon absolument surprenante, extraordinaire. Mais dis donc, il y a aussi votre part à faire. On peut faire notre part. Jésus nous dit que nous avons notre part à faire et il faut faire notre part. Et à mesure que vous continuerez à le faire, à mesure que vous continuerez à remplacer les mauvaises choses que vous avez logées en vous par des bonnes choses, eh bien votre passé va être aboli, ça sera même plus un souvenir, ça sera oublié. Vous en souviendrez seulement quand vous regarderez vos vidéos, vous vous verrez comme ça. Ah ben dis donc, à cette époque-là, je n'étais pas bien. Heureusement que j'écoutais Michel. C'est pas hors de votre portée. Simplement, vous devez me respecter, me croire, parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui parle, c'est pas Jésus. Jésus, il est au ciel, il est dans mon cœur, et ce matin, il n'a aucun autre moyen de vous parler que par moi. Donc, vous devez me croire aujourd'hui. Sinon, à quoi ça sert qu'on se réunisse ici? Allons plutôt jouer au football. Non? Vous devez me croire. Pas seulement croire dans mon existence, mais croire dans ce que je vous dis. Beaucoup de chrétiens font l'erreur, ils croient dans l'existence de Jésus, mais ils ne croient pas ce qu'il dit. Ah oh ben, il dit des belles choses, mais bon, il dit Hein? Ça revient toujours au même. Vous devez croire ce que Jésus dit. Vous devez croire ce que je vous dis de sa part. C'est à vous, c'est à vous. Personne ne peut le faire à votre place, et ça ne sert à rien de prier pour vous, à moins que vous ne vouliez vous mettre à vivre cet enseignement. Moi, vous savez, il y a des gens ici, je ne prie plus pour eux. C'est terminé. Je ne prie plus. Ça ne sert à rien. J'use ma salive, je perds mon temps, je me fais mal aux genoux, c'est fini, je ne prie plus. Ils savent ce qu'ils doivent faire, ils n'ont qu'à le faire. Hein? Tout ce que je vous dise. Un jour, dans la communauté, il y avait des sœurs qui faisaient la tronche. C'est une mode, c'est tout au début. Hein? Alors moi, quand il y a quelqu'un qui me fait la tête, c'est terrible. Je crois tout de suite que c'est moi qui ai fait quelque chose de bête, qui ai fait quelque chose de méchant, alors ça, je culpabilise. Alors j'allais vers elle, je dis, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Rien. Ah bon, on ne dirait pas. Et pourquoi ça va? Pourquoi ça va pas? Mais ça va bien. Ah, ça se voyait vachement que ça allait bien. Je culpabilisais. Je priais, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je peux faire? Je déteste ne pas être aimé, moi. Je ne sais pas si vous êtes... Si vous avez... S'il y a 100 personnes là qui m'aiment, mais une qui ne m'aime pas, ça me rend malade. Je pense même plus aux autres. Ça, c'est mon défaut. Il faut que je corrige. Je corrige. Je travaille là-dessus. J'y arrive de plus en plus. J'y arrive très bien, d'ailleurs. Un jour, j'ai dit à ses sœurs, j'ai réuni tout le monde. Les vieux s'en souviennent. Hein. J'ai dit, les sœurs, là, qui faites la tête, vous pouvez aller crier en enfer, griller en enfer. Je m'en fous. Je prie plus pour vous. Je m'occupe plus de vous. Je suis plus votre pasteur. Vous pouvez dire que je suis votre pasteur. Je suis plus votre pasteur. Je démissionne. Avec vous, je démissionne. Terminé. Fini. Faites ce que vous voulez. Faites la tronche. On s'en fout.
Je m'en fous. Vous êtes malheureuse? Je m'en fous. Ben, ça a changé. C'est fini, on n'a plus jamais fait la tête. Ça fait plus de 20 ans que ça dure. Non, attends, plus que ça, ça fait... C'était à Bao que j'avais dit ça, c'était il y a 25 ans au moins. Hein. C'est génial, non? Il faut, de temps en temps, il faut dire, allez, next. Eh bien voilà, faites ça aussi, vous. Next avec les choses qui sont... Ah, ça ne sert à rien de prier. Il faut mettre en pratique l'enseignement de Jésus. Ça ne sert à rien. À moins que vous mettiez en pratique l'enseignement de Jésus, on peut prier, on peut jeûner, on peut... Ça ne sert à rien, parce que Dieu vous laisse. Alors si Dieu vous laisse, pourquoi est-ce que moi je ne vous laisserai pas? Ah mais Michel, le bon serviteur, il va vers Dieu, puis il dit, tu vois ce pauvre arbre-là, il ne donne pas grand-chose, mais on peut quand même mettre un peu de fumier, il s'occupe. Oui, mais une année, puis après c'est... Réfléchissez. Est-ce que vous connaissez le psaume 139:16? Oui, on l'a lu tout à l'heure, hein? Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Ça signifie quoi? Ça signifie que tout ce qui te concerne est écrit dans le livre de Dieu. Le livre de Dieu, c'est son esprit. C'est écrit dans son esprit, c'est écrit dans sa pensée. Et il nous a créés à son image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce que tu écris dans ton esprit? Qu'est-ce que tu écris dans ta pensée? Qu'est-ce que tu écris? C'est son esprit qui a créé ton corps. Il peut le guérir selon le prototype parfait qui est dans son livre, dans son esprit, dans sa pensée. Mais, il veut ta foi. Et une foi active. Et qui agit pas n'importe comment, mais qui agit sur sa parole. Vous voyez que ce n'est pas compliqué. Penses-tu qu'il peut te guérir? Penses-tu qu'il peut guérir ton corps? Penses-tu qu'il peut guérir ton mental? Penses-tu qu'il peut guérir tes finances, ta famille, ton activité professionnelle? Penses-tu que... Je t'exhorte, ne pense pas autrement que Dieu. Dieu peut le faire. Alors, ton esprit, avec son esprit, en unité, vous pouvez le faire. Mais il faut que ton esprit soit même en communion, en unité avec son esprit. Que tu penses les mêmes choses. Pas que tu dises, Dieu peut le faire, mais moi je suis rien, vraiment une unité. Si tu penses ça, il n'y a plus d'unité. Il n'y a plus de communion. Ce n'est pas compliqué à comprendre ce que je dis là. Alors ne laisse pas le menteur t'influencer. Il a eu Ève, il a eu Adam. Sois plus intelligent qu'eux. Ne prends pas le mauvais, prends le bon. Ne prends pas l'interdit. Prends ce que Dieu te donne. Crois qu'il t'aime, crois qu'il veut ton bien, crois qu'il sait exactement comment répondre, comment réparer. Il sait. Ce qu'il veut, c'est ta foi, une unité avec lui. Il veut que ton esprit soit en unité avec lui. Et ça passe par ton âme, par ton intelligence qui va dire oui, c'est ça que je veux ou non, c'est pas ça que je veux. Parce qu'il y a des gens, ils ne veulent pas. Hein. J'ai rencontré des, mais c'est vraiment grave. Hein. Et des gens, ils ne veulent pas être guéris. Vous savez pourquoi ils ne veulent pas être guéris? Pour qu'on continue à les plaindre. Parce que quand ils vont dire, oui, monsieur, rendez compte, il y avait une bonne femme, elle s'appelait, je ne sais plus comment, à Morges, elle avait été guérie. C'était Archange Raphaël qui avait prié pour elle. Elle avait une coquille de plâtre jusque-là. Elle avait la décalcification des os. Ils ont prié pour elle. Elle est rentrée chez elle le soir avec son mari qui la conduisait, évidemment. Elle ne pouvait pas marcher. Hein. Et le soir, elle dit à son mari, scie cette coque, scie-moi ce plâtre. Il a scié. Elle s'est mise assise, elle s'est mise debout. Elle était guérie. Elle a marché. Ils sont allés à pied jusqu'au lieu où étaient les caravanes pour montrer comment elle était guérie. Gloire à Dieu! Elle a fait tout l'été la tournée avec les gitans. Elle est même venue dans mon village pour montrer à tout le monde comment ce que Jésus a fait pour elle, c'est extraordinaire. L'année d'après, Raphaël revient, mais avec Camélia cette fois. Archange n'était pas là. Et puis on dit, mais où est-ce qu'elle est, madame? Je crois qu'elle s'appelait Jaco, de Morges. Où est-ce qu'elle est, madame Jaco? Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est Jaco, quelque chose comme ça. Il dit, oh là là, madame, c'est pire qu'avant. Comment ça, c'est pire qu'avant? Elle est plus grave malade qu'avant. C'est l'horreur, si vous voyez.
Alors Camille dit, quand Dieu fait quelque chose, il le fait bien. Elle va chez elle, et puis elle prie. Vous connaissez Camélia, je vous en ai souvent parlé. Quand elle prie, elle se met en unité avec Dieu, et Dieu lui parle. Parce qu'on peut en arriver jusque-là, ce que Dieu nous parle, nous révèle des choses. Alors, elle prie, puis elle dit, dis donc,
tu es de nouveau malade, je vais te dire pourquoi, le Seigneur m'a montré. C'est parce que tu n'as pas déclaré à ton assurance que tu étais guéri, c'était pour continuer à toucher ta rente d'invalide. Comment vous savez ça?
Et Camille a lui répond, c'est le Seigneur qui m'a montré.
N'est-ce pas la vérité? Elle dit, oui, c'est la vérité. Alors maintenant, tu vas écrire tout de suite à ton assurance que tu es guéri, et tu es guéri. Elle l'a fait, et le soir même, elle était guérie à remarcher de nouveau. Gloire à Dieu, vous voyez? Pourquoi je raconte tout ça? Pour dire que Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu, et ce qu'il veut, c'est qu'on soit en harmonie. Il y en a qui ne veulent pas être guéris, parce que s'ils sont guéris, ils ne vont plus toucher leur rang d'invalidité. Ou s'ils sont guéris, il va falloir qu'ils se mettent à bosser. Ou s'ils sont guéris, il va falloir que, enfin, ils ne seront plus les petits chouchous de l'église à qui on vient dire « Alors, comment ça va? Comment tu te sens aujourd'hui? Oh, viens, on va prier un peu. » Ils ne seront plus le centre de, voyez, d'intérêt. Et ils vont dire « Bon, je serai comme tout le monde, donc non, je ne veux surtout pas. » Il y en a, c'est inconscient. Parce qu'ils ont tellement cette mentalité pourrie en eux qu'ils n'y pensent même pas. Mais c'est ça qui se passe dans leur cœur. Ils ne veulent pas être guéris parce que ça leur porterait préjudice quelque part. Crois que Dieu t'aime et qu'il veut le meilleur pour toi. Croire ça, c'est donner à ton esprit l'idée parfaite qui sera en harmonie avec l'esprit de Dieu. Croire ça, c'est ce qui te mettra dans la possibilité d'atteindre tes désirs, ce que tu veux, ce que tu voudrais réaliser, ce pourquoi tu es fait. Mon corps et tous mes organes ont été créés par l'intelligence infinie de Dieu. Il faudrait que tu croies ça. Ton corps et tous tes organes ont été créés par l'intelligence infinie de Dieu, par l'esprit de Dieu qui vit en communion. Mais quand je dis qui vit, ça veut dire qui agit en unité avec ton esprit. Et cette puissance, elle sait comment te guérir, elle sait. Sa sagesse qui a façonné tes organes, sa sagesse qui a façonné tes tissus, tes muscles, tes os, tes neurones, tes ongles, tes poils, tout ça. Cette puissance, elle sait, c'est une personne, elle sait comment réparer. Si toi tu as abîmé ça, ou si un accident a abîmé ça, ou si... Enfin, peu importe, il sait te réparer. Il faut que tu fasses une déclaration de foi, je vais te la dire. Et puis tu vas bien écouter, puis après tu vas faire une déclaration de semblable à peu près, tu n'es pas obligé de prendre mot pour mot ce que je dis, mais la déclaration de foi c'est ça. Lui en moi, c'est la puissance curative infinie qui est en moi. Lui en moi, c'est la puissance curative infinie qui est en moi. Elle transforme, en ce moment elle est en train de transformer chaque atome de mon être corporel et l'état de ma mentalité. Ça c'est une belle confession de foi. Alors, dit aussi, je sais cela, et cela est en train de s'accomplir, je le crois. Tu confesses ça, tu fais une belle déclaration de foi. Les œuvres de l'intelligence curative de Jésus-Christ qui est en moi sont merveilleuses. C'est pourquoi je suis une créature merveilleuse. C'est ce que David dit juste avant. Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alors, vous répétez cette déclaration de foi chaque jour. C'est pas de la magie, hein? C'est simplement pour mettre en vous une nourriture autre que la saleté que vous vous mettez toute la journée dans votre tête au sujet de futilité, de choses négatives et d'imbécilité, de crétinerie et de limitation. À la place, vous allez mettre quelque chose de bon et puis vous allez persévérer à dire des choses bonnes dans ce genre plutôt que de dire des âneries et des choses négatives et des choses remplies de crainte. Il n'y a rien qui apparaît sur votre corps, il n'y a rien qui apparaît dans vos situations, dans votre vie, si ce n'est l'équivalence mentale de ce qui est dans votre esprit. Pendant que vous êtes éveillé, votre esprit travaille. C'est votre vie, l'esprit, c'est votre vie. Vous êtes encore vivant pendant que vous dormez. Mais pendant que vous dormez, il travaille. Et Dieu aussi travaille. Dieu travaille sans cesse, l'Esprit de Dieu travaille avec votre esprit, ils travaillent ensemble. Mais Dieu ne va pas travailler dans la désharmonie avec votre esprit. Si votre esprit a en lui des choses qui sont contraires à l'Esprit de Dieu va se retirer. Si vous persistez à vous dévaloriser, à vous empoisonner par des pensées négatives ou des drogues ou que sais-je, Dieu finira par s'attrister et il vous laissera jusqu'à ce que vous vous repentiez. Puis voilà, mais ça c'est biblique, c'est simple, c'est clair, c'est facile à comprendre. Se repentir, ça signifie changer radicalement de comportement intérieur et extérieur. D'ailleurs, dans les nouvelles Bibles et les nouvelles versions, il n'y a plus le mot « se repentir » parce que maintenant, les gens pensent se repentir, c'est aller au confessionnal. C'est passé dans les coutumes. Alors, ils ont traduit autrement le mot « repentir », ils ont marqué, à la place de « repentez-vous », c'est écrit « changer radicalement de comportement intérieur et extérieur ». Changer de mentalité. Votre esprit travaille même pendant que vous dormez, c'est votre vie. Votre vie contrôle les fonctions vitales de votre corps. Par exemple, il n'y a pas besoin de l'âme, il n'y a pas besoin de votre conscient pour que votre cœur continue à battre la nuit. Vous n'êtes pas là pendant que vous êtes en train de m'écouter, vous n'êtes pas en train de dire « Tiens, maintenant il faut que je respire. Tiens, maintenant il faut que j'expire. Tiens, maintenant il faut que mon cœur batte. » Non, ce n'est pas conscient, c'est votre vie qui le fait. Tout le temps, il travaille, il le fait. Votre cœur continue à battre quand vous dormez, vos poumons ne se reposent jamais. Votre sang continue à absorber l'air pur qui arrive par l'oxygène que vous respirez. Tout se poursuit comme quand vous êtes éveillé. La même chose, que vous soyez conscient ou inconscient, c'est comme ça votre esprit contrôle votre digestion. Toutes vos sécrétions glandulaires, tout ça c'est contrôlé par votre esprit, par votre vie, par la vie que Dieu a mis en vous. Toutes les opérations mystérieuses de votre corps, tout ça, c'est contrôlé par votre vie. Vous savez même pas le pancréas, à quoi ça sert. Bon, il y en a qui savent plus que d'autres, les diabétiques. mais et la rate qui se dilate, et le coccyx qui se dévisse, tous ces machins-là, mais ça marche comment? Est-ce que vous y pensez souvent, votre coccyx? Oui, de temps en temps, quand on tombe dessus. Mais n'empêche que s'il n'était pas là, heureusement qu'il est là. Dieu a tout fait à merveille. Les poils continuent à pousser, votre barbe aussi, ça, c'est plus ou moins embêtant. Enfin, ça enrichit Gillette. Que vous soyez éveillé ou que vous soyez endormi, votre esprit, votre vie continue à travailler tout le temps. Alors, quand vous êtes troublé mentalement, quand vous êtes anxieux, lisez les bonnes paroles de Dieu et reposez-vous un moment. Vous lisez les bonnes paroles de Dieu, vous prenez un psaume, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, vous vous gavez avec tout ça et puis vous vous étendez, vous vous reposez, vous respirez tranquillement et si vous arrivez à vous endormir, c'est super. Mais reposez-vous plutôt que vous agiter, tourner en rond. Parlez à votre esprit qui est en communion avec l'Esprit de Dieu. En unité avec l'Esprit de Dieu, demandez-lui de prendre le contrôle des commandes de votre paix. Parlez-lui, ne le suppliez pas, ne pleurnichez pas. Vous savez, je répète ça parce que ça m'avait vraiment frappé. J'avais un problème il y a quelques années, quand je me brossais les dents, ça me donnait des hauts le cœur. M'enfiler quand c'est une fourchette avec un bon steak, ça ne me fait pas de haut-le-cœur. Mais une brosse à dents, oui, c'est bizarre. Donc je me brossais les dents, boum, ça faisait des haut-le-cœur. Et j'en parle bêtement à mon dentiste. Il me dit, il y a beaucoup de clients qui me disent ça. Et j'ai le remède. Je dis, j'étais prêt à payer un remède cher, moi. Il dit, non, vous avez vous prenez votre brosse à dents, vous mettez le dentifrice, vous regardez votre brosse à dents et vous dites à votre bouche. Je dis, quoi? Vous dites à votre bouche, je vais juste mettre ça en toi pour ton bien, c'est juste pour laver. Donc je te prie d'accepter la chose sans me faire de problème. Merci, bouche. Pas le président, ma bouche. Je dis, j'ai essayé. Ça marche. Parlez à votre bouche. Vous avez mal au pied, parlez à votre pied. Écoute, mon pied, là, tu me fais mal. Arrête un peu, là. Allez, au nom de Jésus, maintenant, tu fonctionnes comme il faut, là. Il y en a qui souffrent des pieds. Parce qu'ils ont une sudation trop forte, ou parce qu'ils ont des verrures, ou parce qu'ils sont... Parlez à votre pied. Jésus parlait bien au vent, à la mer. Parlez à votre esprit, dites-lui de prendre les contrôles de la paix. Doucement, vous lui parlez, vous... Et c'est ça, se confier à l'Éternel, c'est-à-dire se confier à ce qui est éternel en vous, à votre esprit qui est en unité avec votre esprit. C'est ça, se confier en l'Éternel. C'est pas se confier en l'Éternel qui est loin, comme les Mormons croient sur la planète Kolob ou je sais pas quoi. Non, Dieu, il est en vous. Alors, voilà les secrets.
Voilà des lois de l'esprit que je voulais vous donner avant de partir au Togo. Je vais les enseigner là-bas aussi. Et que Dieu fasse que ça soit bien reçu. Et j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai voulu vous dire. Je ne suis pas en train de vous dire de vous déprécier Jésus, de dire que Jésus ne fait pas des miracles. Bien sûr, Jésus fait des miracles. Je suis mieux placé que beaucoup pour pouvoir dire c'est vrai que Jésus fait des miracles. Mais il y a aussi, il vous a donné aussi le pouvoir, des pouvoirs naturels pour pouvoir faire face à toutes sortes de choses qui sont désagréables sur cette terre. Alors, utilisez ces pouvoirs tels que Jésus les enseigne et que je vous ai transmis. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ces quelques prédications que j'ai pu apporter à mes frères et sœurs. Permets qu'elles puissent être gravées en eux et qu'elles puissent porter des fruits et que bientôt nous puissions voir des témoignages de gens qui sont transformés par ton enseignement. Ta parole nous rend libres. Merci Seigneur Jésus parce que ta parole crue, mise en pratique, rend libre. Pas ta parole posée sur une table de nuit, mais ta parole crue et mise en pratique. Merci Jésus. Amen.